Bienvenue au National. Bonjour à toutes et à tous, ici Christiane Campagna au microphone à Canal M, qui cette semaine, c'est encore moi qui vous présente le National. Donc encore une fois cette semaine, des textes choisis pour vous dans les différents journaux du Canada francophone avec au menu notamment la santé mentale des femmes, les prix Éloise, les 34e Jeux régionaux de l'Acadie, l'accueil des immigrants francophones et plus encore. Alors, on débute ça tout de suite avec un texte tiré de l'Express de Toronto, ce qu'il faut savoir pour se présenter aux élections municipales et scolaires de 2018. Après le scrutin provincial du 7 juin, politiciens, journalistes, sondeurs et bien sûr citoyens commenceront à s'intéresser à l'autre échéance électorale de 2018, les élections municipales et scolaires du 22 octobre. Ce sont les municipalités qui sont chargées de gérer l'élection des membres de leurs conseils municipaux et des conseils scolaires opérant sur leur territoire. Les 12 conseils scolaires franco-ontariens couvrant de vastes régions de la province, Toronto et le Centre-Sud dans le cas de Viamonde et de Mon Avenir, leurs résultats sont collectés par une foule de municipalités. À Toronto, on élira 47 conseillers municipaux au lieu de 44 la dernière fois. L'élection torontoise a également été bousculée par la crise de février au Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Doug Ford, qui se préparait à en découdre avec le maire John Tory, a fait le saut dans l'arène provinciale et cherche maintenant à se faire élire premier ministre de l'Ontario. Le gouvernement provincial a modifié en 2016 et encore en 2017 la loi de 1996 sur les élections municipales pour accroître la transparence et l'obligation redditionnelle. La période de campagne a été courtée de 120 jours. Les candidats peuvent déposer leur déclaration de candidature du 1er mai au 27 juillet plutôt que du 1er janvier au 2e vendredi de septembre. Les candidats doivent ouvrir un compte bancaire avant d'engager des dépenses ou d'accepter des contributions en argent, y compris leurs propres contributions et celles de leurs conjoints. La limite acceptable aux contributions à la campagne d'un candidat est passée de 750 $ à 1 200 $. Il est interdit aux personnes morales et aux syndicats de faire des contributions aux candidats. Les contributions que les candidats aux conseils municipaux et leurs conjoints peuvent faire à leur propre campagne sont maintenant assujetties à une limite. La période de campagne commence le jour où le candidat ou la candidate dépose sa déclaration de candidature. Les candidats peuvent accepter des contributions ou engager des dépenses liées à la campagne pendant leur période de campagne uniquement. Les candidats doivent remettre toute contribution faite ou acceptée en contravention de la loi. Des pénalités sont imposées aux candidats qui ne se conforment pas aux règles, par exemple le fait d'être déchu du poste obtenu. Pour en savoir plus sur la façon de se présenter aux élections municipales et scolaires de 2018, communiquez avec votre secrétaire municipal. Le guide 2018 des élections municipales et scolaires de l'Ontario à l'intention des candidats est déjà disponible. Le ministère publie aussi un guide à l'intention des électeurs et sur la publicité de tiers au cours de ces élections municipales et scolaires. Le réseau Femmes aborde la santé mentale et physique lors d'un atelier, un texte de l'Action de London. Le vendredi 27 avril, le réseau Femmes organisait à London un atelier « Entre nous » en deux volets. Les participantes, rassemblées dans la salle familiale du Centre communautaire régional de London, le CCRL, se sont penchées sur deux variables susceptibles d'influencer la santé et le bien-être. L'atelier a d'abord reposé entre les mains de Noah Elchick, navigatrice du système de santé mentale et toxicomanie des services de toxicomanie de Thames Valley. Le thème de sa présentation, l'anxiété, ses causes, ses conséquences et la manière de la contrôler. Elle a décrit les réactions communes face au stress et à la peur, les distorsions cognitives qui leur sont associées, les techniques pour mieux gérer ces états psychiques, les moyens de créer une façon de penser qui soit à l'épreuve du stress, etc. Le deuxième volet de l'atelier a été confié à Isabelle Scott, qui jusqu'à récemment travaillait pour le réseau Femmes et qui manifestement n'a pas pu résister à l'envie de renouer avec les « entre nous », cette fois par le biais du bénévolat. Abordant un sujet qu'elle connaît bien pour le mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, Mme Scott a présenté les alternatives naturelles à certains produits manufacturés et qui peuvent être faits à la maison. Baume à lèvres, sel de bain, lotion pour le corps, les participantes ont eu l'occasion de concocter ces produits avec le matériel mis à leur disposition. Un don de 1000 $ de la pharmacie Shoppers destiné à soutenir les initiatives de sensibilisation à la santé mentale des femmes a permis de bonifier l'activité de diverses façons. Une quinzaine de participantes ont eu ainsi l'occasion de nouer des liens d'amitié autour de cette rencontre conviviale qui a réuni des habitués des « entre nous » autant que des nouvelles venues. C'était pour la plupart des femmes issues de l'immigration qui ont répondu à l'invitation de Sarah Salem, l'intervenante de l'organisme affecté à London, qui dresse un bilan positif de cette activité ayant suscité beaucoup d'intérêt. La santé mentale et le bien-être des femmes devraient être également au cœur du prochain atelier qui se tiendra, sauf imprévu, à la fin du mois de mai. Mais quelle qu'en soit la thématique, les entre-nous du réseau femmes sont toujours une occasion de socialiser et d'acquérir de nouvelles connaissances.
Échappé dans une craque du plancher, t'as pas besoin de t'excuser, je sais que ça peut arriver. Le temps nous presse, la vie nous pousse, le courant nous emporte. Petit bateau fragile, la gravité te pèse, toujours besoin d'espace. De la poussière. Le temps te manque, la vie est courte et le courant t'emporte. Tu ne résistes pas, la gravité te pèse, toujours besoin d'espace. Déposé sur une tablette comme un bibelot. À quoi penses-tu, dis-moi? Crois-tu que j'attendrai? Le temps, je m'en fous, la vie est belle et le courant m'emporte. Je ne resterai pas. La gravité me pèse, toujours besoin d'espace.
C'est Urbain des Bois avec La gravité me pèse. Nous, on reste à Toronto et en Ontario avec un texte du Métropolitain, un texte de Nicolas Hassan-Fauré, Les ateliers pour découvrir la bibliothèque en ligne. Sylvia passe souvent les portes des bibliothèques de Toronto. Elle y emprunte beaucoup de livres, notamment en français. La retraitée se plonge dans des romans, des revues, les journaux. Celle qui a étudié à l'Université Laval pose ses yeux sur du papier, mais veut aussi avoir la possibilité de lire des livres numériques en français. Ça tombe bien. Les bibliothèques de Toronto proposent des milliers de contenus numériques en langue française. C'est pour faire découvrir ces collections numériques que depuis 2 ans, des ateliers sont organisés à la bibliothèque de référence. Le 6e d'entre eux s'est déroulé le mercredi 2 mai dans l'établissement situé non loin du croisement des rues Bloor et Yonge. Lors de ces rencontres, Patrick Herman, bibliothécaire au département des langues et littérature, explique le fonctionnement de cette véritable bibliothèque en ligne. Il y a des livres numériques, bien sûr, mais aussi des films et des revues. Beaucoup de revues. Elles se comptent par centaines. Ces magazines ou journaux s'empruntent depuis le site ou une application. Vous pouvez les télécharger puis les lire hors ligne. Il suffit d'une carte valide de la Bibliothèque publique de Toronto pour les consulter. Même chose pour les romans, les bandes dessinées, les films, etc. Les ateliers organisés plusieurs fois dans l'année permettent de se familiariser avec tous ces outils et de mieux naviguer parmi les différents portails. Patrick Herman glisse aussi plusieurs conseils. Télécharger un Wi-Fi, par exemple, pour ne pas épuiser sa connexion Internet, les fichiers pouvant être lourds. Ces rayonnages digitaux et les introductions qui expliquent leur fonctionnement collent à une évolution des habitudes. En 2017, les bibliothèques de Toronto ont enregistré une hausse de la demande pour des contenus numériques en français de 14 % indique Peter Cupidura, spécialiste des services en français dans les bibliothèques de Toronto. Ce chiffre s'explique par une tendance générale, les supports numériques devenant chaque jour un peu plus populaires. Mais aussi car nous achetons de plus en plus de contenus, poursuit-il. Les livres, revues et films sont donc de plus en plus nombreux. Une autre raison de suivre ces ateliers qui permettent de profiter au mieux de tous ces contenus. Le Niagara se cherche une fête francophone annuelle, nous dit le régional d'Hamilton et Niagara. Y a-t-il de la place dans le Niagara pour une fête populaire rassemblant tous les francophones? C'est la grande question à laquelle la communauté aimerait bien répondre. Depuis l'abandon de la Saint-Jean-Baptiste en 2015, faute de bénévoles et de participants, après une quarantaine d'années d'existence au sein de l'auberge Richelieu d'Welland, le Niagara est orphelin d'un événement symbolique et identitaire dans lequel tout le monde se reconnaîtrait. Alors que certains aimeraient voir la traditionnelle fête des Canadiens français du 24 juin renaître de ses cendres, d'autres souhaiteraient plutôt opter pour une manifestation englobant la francophonie dans toute sa diversité, évoquant la date du 25 septembre. Le jour officiel des Franco-Ontariens, lors duquel on hisse le drapeau vert et blanc, n'est véritablement célébré que par les écoles dans la péninsule et pourrait donc s'enrichir d'une participation communautaire élargie. Une chose est sûre, tout le monde est d'accord pour relancer un événement festif faisant la démonstration de la fierté francophone à l'échelle régionale. Reste à réunir une solide équipe capable de dynamiser la communauté, de trouver un lieu et une date qui fassent consensus et les ressources nécessaires pour donner à une telle manifestation l'ampleur régionale qu'elle mérite au-delà des frontières de Welland. Cela fait plus de 40 ans qu'on célèbre à Saint-Jean-Baptiste l'Âge-Pierre Girouard, un des tenants du projet. On ne va pas tout laisser tomber comme ça, c'est pas possible. Selon cet enseignant et membre du Club Richelieu, que la communauté connaît notamment pour son implication dans le carnaval d'hiver de Welland, il n'est pas question de rester les bras croisés. À moins de 2 mois du 24 juin, organiser un tel événement semble difficile. Il suggère donc une année de transition qui consistera à être présent lors du Welland Rose Festival qui célèbre chaque année en juin l'histoire, le patrimoine et les communautés de la ville depuis 1961, au sein d'un kiosque lors des Days in the Park et sur un char francophone inclus dans la Grand Parade. Ce serait un message fort qu'on adresserait à tous les francophones qui assistent au défilé annuel de la ville. La francophonie est toujours là. Rejoignez-nous pour préparer une grande fête l'année prochaine. M. Girouard convient toutefois que la fête des Canadiens français n'englobe pas l'ensemble de la francophonie du Niagara, qui s'est largement enrichie d'une immigration diversifiée, qu'elle soit africaine ou européenne, et non plus seulement québécoise comme par le passé. Peut-être que le 25 septembre serait plus inclusif, songe-t-il. Il faut en discuter et s'entendre sur une date fédératrice. D'autant que le 24 juin a souvent souffert de la concurrence du Welland Rose Festival, même lorsqu'on l'a programmé avant le défilé en matinée lors de la dernière édition de 2015. Le choix du 25 septembre éviterait aussi de voir les francophones s'éparpiller et les bénévoles s'essouffler sur plusieurs projets souffrant de visibilité. Les Canadiens français le 24 juin, les Acadiens le 15 août et les écoles le 25 septembre. Si elle prend forme, la future équipe encadrant cet événement aura aussi la lourde tâche de mobiliser des partenaires solides pour être en mesure d'offrir un programme consistant qui réponde aux attentes d'aujourd'hui. Il est certain que les envies de la communauté ne sont plus les mêmes qu'avant. Il y a 20 ans, quand on faisait venir un chansonnier du Québec, on remplissait l'auberge Richelieu de Welland. La fête débutait le vendredi et se terminait le dimanche. Aujourd'hui, on s'adresse à des familles majoritairement exogames. Il faut trouver de nouvelles idées pour les attirer, insiste-t-il, invitant chacun à faire connaître ses idées, sa disponibilité et ses motivations pour porter le projet. Dans une péninsule où la jeunesse regorge de talents artistiques, d'organismes déterminés à faire avancer des projets communs, il semble inconcevable qu'une telle célébration d'envergure ne voit pas le jour. Il est question de temps, de soutien financier et d'adhésion populaire.
Il y a quelqu'un qui appelle mon nom. Il y a quelqu'un qui appelle mon nom. On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie. On travaille. Mes mains sont noires à cochon. 36 jours et 36 nuits, on travaille. Oui, ma blonde, elle attend après moi. Je vais retourner avec beaucoup d'argent. On travaille. Oh, driver, donne-moi une chance. Avez-vous du feu pour ma cigarette? On travaille. Ce soir, on va au village. Chanter la chanson, boire la boisson. On travaille. Oh Marie, j'ai mal à la tête. Donnez-nous l'esprit du corps.
On travaille au tabac, Marie.
Le bleu du ciel a changé. Après 40 jours et 40 nuits,
on peut pas travailler au tabac.
On travaille.
Il y a quelqu'un qui appelle mon nom.
On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie,
on travaille au tabac.
Les Charbonniers de l'Enfer avec leur version de la chanson de Daniel Lanois, Ô Marie. On poursuit avec Pénurie de travailleurs qualifiés, défi majeur des entrepreneurs francophones, un texte de l'Acadie Nouvelle, écrit par David Caron. Anne Herbin, Bachir Adjani, Tariq Zahir et Victor Urbain sont tous originaires de différents pays, mais ils ont tous en commun le fait d'avoir choisi de s'établir dans la péninsule acadienne. Année après année, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick nomme la pénurie de travailleurs qualifiés comme étant l'un des plus importants défis qui attendent les entrepreneurs francophones. Aux yeux de l'économiste et analyste Richard Saillant, la péninsule acadienne et le Nouveau-Brunswick en général doivent miser davantage sur les nouveaux arrivants pour affronter les défis démographiques et de main-d'œuvre imminente. L'auteur des livres « Au bord du gouffre » et « Deux pays, le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique » était de passage cette semaine dans le nord-est... était de passage dans le nord-est dans le cadre de la tournée « Nouvelle conversation » organisée par le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Selon M. Saillant, si la tendance se maintient, le Nouveau-Brunswick pourrait perdre 30 000 travailleurs au cours des 15 prochaines années. Le nord-est de la province n'échappera pas à la tendance, avertit-il. L'âge moyen dans la plupart des localités de la péninsule acadienne est d'environ 50 ans, dont 54 à la Mecque. De plus, 10 000 travailleurs et 40 % des entrepreneurs du comté de Gloucester ont plus de 55 ans. Entre-temps, le vieillissement de la population occasionnera une hausse de la demande pour les services publics et les dépenses en santé. Bien entendu, la rétention des travailleurs originaires du Nouveau-Brunswick et le recrutement de travailleurs d'autres provinces font aussi partie des solutions aux défis, mais la province doit en faire plus pour attirer de nouveaux arrivants. L'économiste cite en exemple l'île du Prince-Édouard, qui a intensifié ses efforts en matière d'immigration il y a quelques années. Alors que seulement 555 nouveaux avirons se sont établis dans la province de 2001 à 2005, environ 33 060 immigrants se sont installés sur l'île de 2011 à 2016, une hausse de 505 %. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le taux de chômage n'a pas augmenté. Il a même diminué à certains endroits, dont à Charlottetown. En moyenne, le taux de chômage dans la capitale insulaire s'élevait à 8 % en 2014. 3 années plus tard, en 2017, ce chiffre avait baissé à 6,69 %. Lors de sa présentation, Richard Saillant a tenu à détruire plusieurs mythes entourant l'immigration. Par exemple, pourquoi dit-on qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Nouveau-Brunswick alors que le taux de chômage demeure élevé, particulièrement dans le Nord? Dans une économie saisonnière, c'est normal qu'il y ait plus de gens sur l'assurance-emploi que dans d'autres régions. C'est une question de structure économique, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens sur l'assurance-emploi qu'il y a une masse de gens disponibles pour travailler à l'année dans d'autres industries. Ce n'est pas parce qu'un taux de chômage est élevé qu'il ne peut pas y avoir de pénurie de main-d'œuvre. Il a aussi démenti l'argument voulant que les immigrants volent les emplois des gens locaux. Il y a une perception qu'un marché comprend un nombre fixe d'emplois dans l'économie. Quand les gens viennent ici, des employeurs voient de nouvelles opportunités et créent des emplois. L'économie se met à rouler. L'économiste rappelle d'ailleurs que pour les employeurs, le processus d'embauche d'une personne immigrante compte plusieurs étapes. Ils doivent démontrer qu'ils ont recherché de façon très active des candidats locaux pour remplir les postes. Il faut afficher le poste pendant une période déterminée à 3 endroits différents. Il faut aussi débourser 1 000 pour une étude de marché local. Marie-Jo Thériault avec « Song for Lydia Lee ». On poursuit avec toujours un texte de l'Acadie Nouvelle, « Les Éloises, la culture acadienne rayonne à Edmundston ». Présentée samedi soir au Centre Jean d'Aigle d'Edmundston, la soirée des Éloises 2018 aura permis de faire rayonner la culture acadienne et de mettre en valeur la qualité du travail des artistes d'ici. Près de 1400 personnes ont assisté à l'événement qui était organisé par l'Association canadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. George Gauguin, Phil Como, Marie-Jo Thériault et Arthur Como auront particulièrement laissé leur marque lors du gala qui mettait un terme à la Semaine des Éloises qui célébrait cette année ses 20 ans d'existence. L'artiste-peintre George Gauguin a reçu le prix hommage pour l'ensemble de son œuvre et sa carrière artistique entamée il y a déjà 60 années. Ça me donne l'envie de travailler encore plus fort que jamais. C'est une semaine qui restera longtemps gravée dans ma mémoire, a lancé celui qui recevait un tout premier prix artistique en 1956. Maintes fois récompensé au cours de sa prolifique carrière, le cinéaste et réalisateur Phil Como a quant à lui ajouté à sa collection en raflant le convoité prix de l'artiste s'étant le plus illustré à l'extérieur de l'Acadie. C'est la première fois en 20 ans qu'un artiste en cinéma remporte ce prix qui revenait toujours aux artisans de la scène musicale. C'est génial et un prix qui me tient à cœur, a affirmé celui qui a réalisé une cinquantaine de films, dont les longs-métrages Zachary Richard, Toujours batailleur et Ron Turcotte, jockey légendaire. La soirée des Éloises avait fort bien débuté pour ce dernier, qui a également reçu le prix Éloise du public en levée de rideau. De son côté, Arthur Como est reparti du Centre Jean d'Aigle avec deux statuettes. L'ancien membre et fondateur du populaire groupe musical Radio Radio a récolté le prix de l'artiste de l'année en musique, en plus de voir son école Tide School recevoir la récompense du soutien à la production artistique. Débordante d'émotion et de bonheur, Marie-Jo Thériault s'est vue pour sa part remettre le prix Éloise de l'événement spectacle de l'année. Son spectacle intitulé « On a tous une Lydia Lee » a été préféré au Festival acadien de poésie et à la méga-production musicale « La soirée Acadie Rock » aux Francophonies de Montréal, qui fut présentée l'été dernier, mettant en vedette des artistes de renom tels que Les Païens, Lisa Leblanc, Joseph Edgar, Radio Radio, Marie-Jo Thériault, les Hey Babies, les Hôtesses d'Hilaire et Mon Oncle Jason. Je ne m'y attendais pas du tout comme artiste. Si on pouvait couper la statuette en trois, on le ferait, a expliqué la chanteuse qui est allée récolter son prix sur scène en débordant de larmes. Au départ sensible, avec une pensée pour les personnes qui sont aux prises avec les inondations, il s'est révélé parfois drôle et somme toute assez solide dans son rôle d'animateur. La personne n'était pas mentionnée. Par la suite, une multitude d'artistes se sont succédés à la scène afin de divertir les spectateurs présents ainsi que les téléspectateurs. Et un moment fort de la soirée fut l'hommage rendu aux artistes récemment disparus, dont le chanteur Denis Richard, l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de l'Acadie. Alors voilà, ça complète cette première moitié du National. On se retrouve avec la suite, l'Ouest et le Nord-Ouest, après la pause. C'était une sad chanson d'amour, une chanson de Julie Aubé, une des membres du trio Les Hey Babies. Et nous, on poursuit avec un texte tiré du courrier. Les 34e Jeux régionaux de l'Acadie s'en viennent en clair, un texte de Francis Robichaud. Cette année, les 34e Jeux régionaux de l'Acadie auront lieu du vendredi 18 au dimanche 20 mai dans la région de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Odette Godet, membre du comité organisateur de ces Jeux, a accueilli le courrier de la Nouvelle-Écosse dans sa maison. Madame Godet donne de son temps à titre de bénévole pour les Jeux de l'Acadie depuis plus de 20 ans. Elle a d'abord été présidente de plusieurs jeux régionaux en clair, qui a été la communauté hôtesse pour ces mêmes Jeux en 1988, 91, 97, 2004, 2007 ainsi que 2013. Elle a commencé en tant qu'entraîneuse pour des équipes féminines de soccer pendant 7 ans. Elle a été chef de mission pendant 10 ans jusqu'en 2016. Elle a aussi joué d'autres rôles au niveau provincial en tant qu'entraîneur, chef de mission et membre de l'équipe de la Nouvelle-Écosse qui se rendait chaque année à la finale des Jeux. « Je donne mon temps pour les jeunes afin qu'ils aient des occasions de voyager en dehors de leur région natale et de rencontrer d'autres jeunes. On tient pour acquis que tous les jeunes ont les mêmes occasions, mais pour certains, cet événement annuel est très important dans leur développement social et sportif. » Elle constate aussi qu'au fil des années, il y a eu plusieurs changements dans la participation des jeunes avec plus d'écoles qui s'additionnent au Conseil scolaire acadien provincial, le CSAP, qui compte maintenant 22 écoles et plus de 5800 élèves. De plus, la programmation sportive a évolué avec le temps. Rappelons que l'an passé, comme les enseignants et enseignantes du Conseil scolaire acadien provincial, ainsi que tous les autres membres du syndicat NSTU faisaient la règle du zèle, ceci a eu pour effet d'empêcher pour la première fois dans l'histoire la tenue de compétition dans le cadre de ces Jeux. Cependant, dans quelques petites compétitions régionales ont eu lieu dans différentes régions à travers la province. Selon Mme Godet, des fonds de plus de 70 000 $ sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de toute la gamme d'activités qui se tiendront en fin de semaine. Cette année, le comité organisateur n'a pas pu pourvoir le poste de coordonnateur, mais le comité s'est chargé des diverses tâches de coordination. Mme Godet estime que jusqu'à maintenant, environ 20 000 $ ont été recueillis. Il y a plusieurs demandes de financement en attente à divers niveaux gouvernementaux, ainsi qu'auprès des commanditaires d'entreprises privées. Elle dit que la municipalité de Clare est venue appuyer les Jeux avec une contribution financière majeure. Une activité scolaire de fond, une soirée lip-sync, aura lieu le 12 mai 2018 au Seashore Restaurant and Blue Rock Lounge à Mittegan à 20h et la participation s'annonce déjà très bonne avec au moins une dizaine de groupes inscrits. Alain Poirier coordonne cette activité de concert avec Ryan Titus. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec eux pour s'inscrire et pour obtenir plus de détails. Au cours des 3 jours des Jeux régionaux, plus de 850 participants, incluant les athlètes, parents, bénévoles, entraîneurs et accompagnateurs représentant 13 écoles du CSAP, seront rassemblés à la baie. L'école Joseph Dugas logera les gars, alors que l'école secondaire de Clare hébergera les filles. Selon Odette Godet, le succès de ces Jeux est assuré par le travail exceptionnel des bénévoles et la participation très active des jeunes. Il ne faut pas oublier l'appui financier des commanditaires qui permettent la réalisation de toutes les activités reliées à cette fin de semaine. Les Jeux régionaux de l'Acadie sont un grand rassemblement pour les jeunes des écoles du CSAP de partout dans la province, offrant divers sports et aussi des activités culturelles et sociales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.cpjane.ca, cliquez sur « Résultats »,« Jeux régionaux » et enfin sur « 34e Jeux régionaux Clare 2018 » pour les détails. Cette année, le logo pour les Jeux a été créé par Rachel Robichaud de la Baie-Sainte-Marie. Les personnes intéressées à faire du bénévolat dans tous les aspects liés à cette fin de semaine des Jeux peuvent communiquer avec Odette Godet au 902-778-0367 ou par courriel à odette.godet@emci.ca. Pour ceux qui aimeraient verser un don financier, veuillez communiquer avec le comité organisateur.
Le vent m'arrache la peau, il fouette les flancs et glace l'âme de mon bateau. La marée à la barre, j'entends ta voix, j'entends tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe de son écho. Au large du cap enragé, j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour empêcher mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler. Avec les yeux abandonnés, envoyer une prière avec une voix désespérée. Si seulement je pouvais te faire comprendre la vérité.
C'était Zachary Richard avec Cap enragé. On s'en va maintenant en Saskatchewan avec un deuxième pavillon pour l'école élémentaire françaisquoise à Regina, un texte de l'Eau vive par Michel Vizina. Selon un communiqué émis par le collectif des parents inquiets et préoccupés, le CPIP, une entente conclue avec la province permettra à l'école Monseigneur de Laval de compter sur un deuxième pavillon pour désengorger ses locaux actuels. Le Conseil des écoles françaisquoises pourra louer les anciens locaux de l'école Saint-Andrew qui a été fermée par le Regina Catholic School Board au terme de l'année scolaire 2006-2017. Cette école est située au 601 avenue Douglas-Est. C'est en octobre 2017 que le CPIP a déposé un recours légal contre le gouvernement afin de trouver une solution au surpeuplement des locaux actuels situés rue Cowan Crescent. Selon Jean de Dieu Nanyahundwa, porte-parole du CPIP, c'est à partir de ce moment que les choses se sont accélérées et que les négociations ont débloqué. Rappelons que lors de l'Assemblée générale du Conseil de l'École Monseigneur de Laval en mai 2017, la présidente Josée Levasseur avait déploré le manque d'espace. Des locaux ont dû être transformés en salles de classe pour la rentrée 2017. Le CPIP a vu ses revendications appuyées par l'Assemblée communautaire françaisquoise et le Conseil scolaire françaisquois et a bénéficié du programme d'appui aux droits linguistiques pour soutenir financièrement ses démarches légales. le CPIP compte toujours sur la construction d'une nouvelle école dans le nord de la ville. Un texte du Franco-Alberta de Jean-Pierre Dubé, enfin une solution aux tests controversés pour les demandes de résidence. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le IRCC, a confirmé le 18 avril avoir trouvé une solution pour les évaluations linguistiques, notamment pour les demandes en français de résidence permanente. Cet enjeu avait marqué la 12e journée de réflexion sur l'immigration francophone de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, le FCFA, le 21 mars. Une nouvelle approche serait mise en œuvre dès l'automne prochain. Lors de cette journée de réflexion, les 150 participants ont appris que le test cadre actuel aurait non seulement été conçu en France, mais qu'il coûterait plus cher que l'examen anglais et que la plupart des Canadiens ne le réussiraient pas. J'ai fait une intervention sur la question lors du dernier panel, explique Jacinthe Lemire, la directrice de la coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Je voulais savoir ce qu'il en était. Avant la fin de la journée, le ministère avait informellement annoncé qu'une solution avait été trouvée. Ils ont dit qu'il y aurait des modifications dans les prochains mois, précise l'intervenante, et qu'ils avaient trouvé un fournisseur au Canada. La conseillère en communication de l'IRCC, Julie Lafortune, signale par courriel que le ministère est déterminé à améliorer la situation partout au pays en collaboration avec les organisations d'évaluation linguistique désignées par Ottawa. L'approche viserait par-dessus tout à faciliter le processus pour les candidats potentiels. La journée de réflexion du 21 mars avait également donné lieu à la prise de conscience de nouvelles tendances. On trouverait plus de réfugiés parmi les nouveaux arrivants francophones qu'anglophones dans les provinces et territoires. Mais l'accueil francophone n'est pas adapté à cette réalité. Très peu de fournisseurs de services en français ont des programmes de rétablissement pour les réfugiés, déplore Emmanuel Naïmana, gestionnaire de projet à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. C'est le programme qui commence par l'accueil à l'aéroport, qui amène les réfugiés dans un hôtel en attendant de leur trouver un appartement. Il y a une suite de services qui continue. Selon l'intervenant de Halifax, ce service n'est pas offert dans sa province et il estime que l'enjeu est national. Le fait de ne pas accueillir les réfugiés d'expression française nous défavorise parce que ça nous empêche de remplir notre mandat. On manque beaucoup d'opportunités de les intégrer dans nos communautés où ils bénéficieraient de services. Le gestionnaire considère que l'accueil des enfants réfugiés est critique. Un enfant accueilli en français sera établi dans une école francophone qui lui offre l'occasion de devenir bilingue. C'est un atout que tout parent peut donner à son enfant. Sans ça, l'enfant ne peut pas profiter de tous les avantages qu'offre le Canada.
Si je savais parler, je me tairais pour mieux entendre. Et si je pouvais rêver, je m'éveillerais pour te surprendre. Mais comme je ne sais rien faire de tout ça, je reste là. Je savais prier, je m'éteindrais pour mieux te voir. Si je pouvais voler, je te suivrais du matin au soir. Mais comme je ne sais rien faire de tout ça, je marche là. Je pouvais
chanson « Souvenir de toi » de Catherine Durand de l'album « Diaporama ». On poursuit avec un éditorial de Bernard Bockel dans laliberté.ca. « Le Manitoba se fête le 15 juillet. Demandez aux amis d'Upper Fort Garry. » Il faut s'attendre à ce que le 12 mai, des voix s'élèvent pour saluer la naissance du Manitoba. Puisque ce jour-là, en 1870, après d'âpres négociations menées par l'abbé Noël Richaud, la loi sur le Manitoba reçoit la sanction royale pour être promulguée le 15 juillet. Entre autres, pour permettre aux gens de la Rivière Rouge de se prononcer. Longtemps, la version officielle de la naissance de la province du Milieu a occulté ce fait. Mais grâce à la montée en puissance du phénomène métis, des chercheurs à l'esprit plus scientifique que nationaliste ont entrepris de poser un regard neuf sur l'époque. Un essai publié en 2010, consacré à l'histoire de l'Assemblée législative d'Assiniboia, en constitue un bon exemple. Cette Assemblée législative d'Assiniboia, présidée par Louis Riel, a siégé du 9 mars au 24 juin 1870. La quasi-totalité des législateurs était métisse. L'équilibre entre anglophones et francophones était respecté. La troisième et dernière session avait pour but d'entendre le curé de Saint-Norbert, tout juste de retour d'Ottawa, expliquer la loi sur le Manitoba. Citons un extrait significatif de l'essai publié sous la direction de Norma Hall. Après avoir questionné Richaud sur les implications des différentes clauses et reçu la réassurance que, contrairement à ce que disaient les journaux, les gens du Canada étaient en faveur du gouvernement provisoire, l'Assemblée fut satisfaite que les droits qui lui tenaient à cœur avaient été reconnus. Le commentaire de conclusion revint à Louis Riel, tel que noté par le greffier William Caldwell. « Je félicite les gens du Nord-Ouest pour le dénouement heureux de leur réalisation. Je les félicite pour leur modération et pour la fermeté avec laquelle ils ont poursuivi leurs objectifs, et je les félicite d'avoir eu assez confiance en la couronne d'Angleterre. On sait que cette confiance espérée par les élus du petit peuple de la Rivière Rouge a été piétinée bien des fois par Ottawa. » Pour se le remémorer collectivement, pour dépasser en tant que société manitobaine ces manquements à l'honneur de la couronne qui ont porté atteinte à notre vivre ensemble, il est grand temps de mettre enfin l'accent sur le 15 juillet, la véritable date de naissance du Manitoba. Et qui de mieux placé que les amis d'Upper Fort Garry pour faire valoir la vérité historique? Eux qui ont pris la responsabilité de faire revivre bien plus que symboliquement le haut lieu politique de la colonie de la Rivière Rouge, l'endroit où ont siégé les députés de l'Assemblée législative d'Assiniboia, au temps où régnait l'espoir d'un respect mutuel. Lorsqu'en 2004, la ville de Winnipeg a déclaré bien excédentaire le site d'origine du fort, c'est ce groupe de bénévoles influents, conscients du potentiel pédagogique de l'endroit, qui a su rendre irrésistible sa vision d'un parc provincial du patrimoine. Leur motivation peut se résumer en deux faits. En 2007, il leur a suffi d'une centaine de jours pour recueillir 10 millions de dollars afin de prouver leur sérieux à la ville. Le 27 juin 2010, la loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry a reçu la sanction royale, avec une clause qui fixait son entrée en vigueur par proclamation, proclamation qui s'est produite, et évidemment pas par hasard, le 15 juillet 2014. Cette date est maintenant gravée dans l'acier à l'entrée du site. Un rappel inflexible que c'est bien le 15 juillet 2020, à cet endroit même, qu'il faudra célébrer en grande pompe les 150 ans du Manitoba. Un texte de Nicolas Servelle sur l'estrade record battu. 63 participants au concours annuel d'art oratoire des territoires du Nord-Ouest. L'édition 2018 au concours d'art oratoire organisé par le Canadian Parents for French a rassemblé 63 orateurs à l'église Calvary de Yellowknife le mardi 1er mai et enverra Akuti Balaji à Ottawa pour concourir à l'épreuve nationale au mois de juin. L'équipe du CPF qui organise le concours au territoire du Nord-Ouest s'est réjouie de la tenue de l'événement qui prend toujours plus d'ampleur. Andréanne Simard, directrice générale de l'organisme, s'est dite très satisfaite de cette 14e édition territoriale. On a travaillé fort et ce fut un beau succès. Il y a eu plus de participants, plus de public et une belle implication de la part des écoles et des professeurs, avec notamment des jeunes de Hay River et de Fort Smith, a-t-elle ajouté. C'est l'aspect rassembleur qui est important pour les jeunes, d'après l'organisatrice, pour qu'ils puissent avoir du plaisir ensemble à communiquer en français. Ce n'est pas juste une langue de travail ou d'études, mais une langue avec laquelle on peut s'amuser. Les jeunes choisissent des sujets qui les touchent, les inspirent et qu'ils prennent plaisir à partager devant leur fervent et grandissant public. Cela crée un effet boule de neige et attire de plus en plus d'élèves francophones ou d'immersion vers cet exercice. L'expérience est tellement formidable, confirme tout sourire Sonali Sivakumar. Chaque année, je le fais et c'est toujours une nouvelle expérience. Je pense que tout le monde devrait essayer. Le concours d'art oratoire est une occasion d'échanger, de se faire des amis et d'améliorer son français parlé. C'est aussi l'occasion d'interpeller et d'éduquer ses camarades sur des sujets importants qui concernent la société. Les jeunes sont libres de choisir leur thème et c'est un ingrédient indispensable au succès du concours. La santé mentale, l'intelligence artificielle ou encore le don d'organes ne sont que quelques exemples, mais ils illustrent très bien l'intérêt de jeunes pour un avenir commun. C'est également une façon de se préparer aux études universitaires, pouvoir se forger des opinions, les formuler après un travail de recherche et les exprimer devant un large public. Des notions qu'il faudra nécessairement maîtriser plus tard, peu importe la voie scolaire empruntée. En bonus, le gagnant du concours national remportera une bourse de plus de 30 000 $ afin de faciliter son accès aux études supérieures. Akruti Balaji, première des 11e et 12e années immersion précoce, ira représenter les territoires du Nord-Ouest les 1er et 2 juin prochains à Ottawa pour une fin de semaine riche en rencontres et en français. Zach Boivin, dans le groupe des 7-8e années francophones, y songe déjà, lui qui a remporté la première place dans sa catégorie, ainsi que le prix coup de cœur durant l'événement. Alors voilà, c'est ce qui nous amène tranquillement vers la fin de cette émission. Merci beaucoup à Maurice Bauduc à la mise en onde. C'était Christiane Campagna avec vous à la recherche et aux choix musicaux. Vous pouvez réécouter cette émission au canalem.vusevoix.com. Vous pouvez nous suivre Canalem sur Facebook et sur Twitter. Et je vous invite à écouter Hélène Denis toute la semaine à 10h pour avoir des nouvelles des journaux quotidiens du Québec. Bonne fin de semaine tout le monde!